C'est une image de calme avant la tempête. Ils sont assis en tailleur, alignés, silencieux, devant un miroir d'eau qui reflète leur visage impassible et à moitié dissimulé avec en fond la lumière des gratte-ciel. Ils regardent droit devant eux. C'est une photo à Hong Kong d'Anthony Wallace de l'AFP, une des images fortes de cette semaine passée dans le monde. Bienvenue à tous sur France Culture, on est ensemble jusqu'à 13h50. Le calme avant la tempête, voilà qui pourrait résumer nos deux plateaux du jour. Tout d'abord en Grèce, il y a un mois et une semaine, le parti de droite Nouvelle Démocratie remportait 39,85% des suffrages aux élections législatives anticipées, devançant d'un peu plus de 8 points le parti d'Alexis Tsipras Syriza. Le Premier ministre sortant aura donc payé par ces élections sa gestion notamment de la dette et par conséquent celle de la question sociale en Grèce. Une gestion contraire à ce qu'il avait annoncé en se présentant il y a 4 ans comme le candidat anti-politique d'austérité. Virage à droite donc depuis un mois et des réformes annoncées au pas de charge avec par le nouveau gouvernement de droite, renforcement des pouvoirs du Premier ministre, politique migratoire prochainement gérée par la police, pour ne citer que celle-ci pour le moment, sans compter avec une opposition plus qu'affaiblie par la défaite de Syriza et les faibles scores d'une gauche plus que jamais divisée aux dernières élections, le tout en attendant une rentrée sociale chargée.
Le magazine du week-end, Émilie Chaudet.
Et pour parler de tout cela, nous sommes en compagnie de Stathis Kouvelakis. Vous êtes avec nous au téléphone depuis Athènes. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue et philosophe, enseigné au King's College de Londres en philosophie politique et vous avez été aussi membre du comité central de Syriza, coalition de gauche dont est issu donc le Premier ministre sortant Alexis Tsipras. Vous êtes maintenant membre d'Unité Populaire fondée par des dissidents de Syriza. Bienvenue à vous. En plateau pour parler de ce sujet donc avec nous, Eva Betavadi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre du CADTM, le comité pour l'abolition des dettes illégitimes, militante également au sein de Solidarité avec la Grèce basée à Bruxelles. Et en face de vous, Thiago Moreira Ramalho. Bonjour. Vous êtes doctorant au sein du Centre d'études européennes et de politique comparée de Sciences Po et spécialisé sur la question de la crise économique dans les pays d'Europe du Sud.
Nous nous sommes battus et nous avons fait beaucoup. Toujours la tête haute. Et aujourd'hui encore, c'est la tête haute que nous acceptons le verdict des Grecs. Parce que nous savons que la Grèce que nous laissons n'a plus rien à voir avec celle dont nous avons hérité il y a 4 ans et demi.
Dans une démocratie, l'alternance du pouvoir n'est pas un paradoxe ni une anomalie. C'est au contraire ce que la démocratie peut nous offrir de mieux, et je compte bien respecter la volonté du peuple.
La Grèce va retrouver sa joie de vivre et va se rétablir. On aurait voulu que ça arrive bien avant.
Les Grecs attendaient beaucoup du gouvernement de Syriza. Malheureusement, pendant la plus grande partie de leur mandat, ils ont dû mettre en œuvre une politique qui n'était pas la leur.
Le peuple grec a puni le gouvernement en place. Il avait promis beaucoup, mais il n'a pas tenu ses promesses.
Extrait du discours de défaite d'Alexis Tsipras le 7 juillet dernier à l'issue de ses élections législatives anticipées. Donc, nous avons aussi entendu des réactions d'électeurs grecs ce même jour, ce qui marque dans ce qu'on vient d'entendre. C'est la résignation d'un Premier ministre qui présente presque sa défaite comme un événement mécanique, systémique, sans lien véritable avec son bilan. Et pourtant, ce qu'on entend par la suite dans la voix de ses électeurs, c'est tout de même un sentiment dominant de déception après 5 ans de mandat. Donc 86 sièges sur 300 à la voulie, le Parlement grec pour Syriza, 158 pour le parti Nouvelle Démocratie. Au niveau local, le virage à droite est encore plus saisissant, puisque la droite a remporté 12 des 13 régions du pays et les 3 grandes mairies d'Athènes, du Pirée et de Thessalonique. Que veut dire ce résultat, Stathis Kouvelakis? Est-ce qu'il s'agit d'un vote de contestation ou est-ce qu'il y a quand même une partie d'adhésion à ce candidat, à Kyriakos Mitsotakis, donc le nouveau Premier ministre?
Écoutez, ce que je peux dire, c'est qu'il y a quelques années, si quelqu'un avait dit que la droite, une droite complètement discréditée, qui avait plongé à moins de 20% aux élections de 2012, Et de surcroît, une droite dirigée par le clan Mitsotakis, le nom est lié à des pages sombres de l'histoire de la Grèce, pourrait remporter dans quelques années les élections. On aurait considéré qu'il était vraiment dans un cadre quasiment de délire politique. Si c'est le cas, c'est évidemment, comme vous l'avez dit, parce qu'il y a une énorme déception et démoralisation, dont le résultat le plus probant est le taux d'abstention à ces élections. 42%, c'est le deuxième taux le plus élevé à des élections législatives de l'histoire du pays, après celui de septembre 2015. Donc cela montre que la politique en général est discréditée, et c'est le résultat, effectivement, vous l'avez suggéré dans votre commentaire, du fait qu'une gauche, de surcroît une gauche radicale, est venue au pouvoir, et elle s'est complètement alignée sur les politiques néolibérales dominantes qu'elle a appliquées à la lettre, docilement, et tout s'est joué le fameux été 2015, quand Alexis Tsipras a succombé au chantage, a capitulé et a signé un troisième mémorandum avec les créanciers de la Grèce, c'est-à-dire avec l'Union européenne et avec le FMI.
Et donc a rompu avec cette conviction affichée de rompre avec les politiques d'austérité. Ce que vous avez dit, Stathis Kouvelakis, vous avez souligné à juste titre ce taux d'abstention très fort. Et au-delà de la déception, donc on voit que c'est un vote avant tout contestataire et lié à une déception et à une résignation d'une partie de l'électorat grec. Mais au-delà de cette déception qui a pu inspirer Syriza comme parti au pouvoir, qu'est-ce qui a pu séduire certains électeurs grecs chez Kyriakos Mitsotakis? Est-ce que c'est cette proposition phare qu'il a cessé de marteler pendant sa campagne de baisse des impôts pour les classes moyennes?
Oui, je crois que ça, c'est l'élément effectivement le plus important qui a permis à la droite de rassembler sa base sociale traditionnelle et de capter évidemment de faire des petites percées qui restent quand même significatives parmi d'autres segments de l'électorat. Il faut vous dire qu'en Grèce, du fait de l'obligation de dégager ces fameux excédents budgétaires primaires qui servent à rembourser la dette, on assistait à un matraquage fiscal qui a concernait essentiellement la classe moyenne, mais pas les plus riches. Donc il y a, si vous voulez, à la fois le sentiment parmi la classe moyenne, y compris la petite classe moyenne d'ailleurs, d'avoir quand même énormément donné, sans qu'il y ait pour autant une véritable justice fiscale et une rupture par rapport à la politique d'évasion ou d'évitement fiscal à très grande échelle que pratiquent les riches, les privilégiés, le capital, les armateurs, les sources de grandes fortunes du pays. Ça, c'est incontestablement profité à la droite, et d'ailleurs les premières mesures que ce gouvernement a annoncées visent précisément à satisfaire en partie en tout cas certaines des aspirations de ces couches sociales.
Eva Betavadzi, sur les résultats de cette élection il y a donc un mois, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ce revirement de l'électorat grec vers ce candidat? On a compris qu'il y avait donc une forte abstention et que ce n'était pas forcément un vote d'adhésion en premier lieu, mais qu'est-ce qui a pu attirer cette partie de l'électorat grec, donc quasiment 40% des électeurs, vers ce candidat de droite de Nouvelle Démocratie, Kyriakos Mitsotakis?
Je pense que, comme l'a dit Stathis Kouvelakis, les électeurs grecs ont été déçus de la politique de Syriza, notamment après sa capitulation après le référendum. Donc, ils n'ont pas cru aux politiques de gauche, enfin qu'il était possible d'aller à l'encontre, en tout cas, de la Troïka et de ses exigences. Et ils ont décidé d'abord de punir Syriza, en quelque sorte. C'est pas un vote d'adhésion pour moi, c'est-à-dire que c'est pas un vote qui exprime l'adhésion aux politiques que Mitsotakis voudrait mettre en place, mais c'est plutôt un vote de désespoir, je dirais. C'est-à-dire que la population grecque se voit confrontée à des mensonges permanents par les médias qui sont contrôlés par une poignée de personnes et qui font de la propagande à longueur de journée. C'est une population qui, même si elle ne croit plus à ces mensonges-là, elle ne croit plus à rien. En fait, et elle ne croit plus à la politique. Et Mitsotakis est venu avec un discours fort en disant voilà, moi je vais créer de l'emploi, je vais tout libéraliser, je vais prendre le relais. Et en quelque sorte, Syriza, lui, avait montré que la Grèce était une sorte de colonie de la dette et qu'elle avait perdu sa souveraineté. Et donc, j'ai l'impression que c'est ça qui a attiré un une grande partie des électeurs grecs a voté pour Mitsotakis.
Thiago Moreira Ramalho, vous dites que c'est un résultat plutôt impressionnant au regard de la contestation, ce résultat du 7 juillet dernier.
En fait, je dirais qu'il faut peut-être nuancer la vision de la punition de Syriza, dans le sens où c'est évident qu'il y a certainement une déception plutôt généralisée dans quelques secteurs, mais en même temps c'est un résultat qu'on pourrait même dire assez impressionnant quand on voit un parti qui rompt avec toutes ses promesses initiales, les plus importantes en tout cas, et qui garde quand même un résultat au-dessus de 30%, qui n'est pas très loin du résultat qu'ils ont obtenu en 2015. D'ailleurs, si nous faisons la somme entre le résultat de Syriza et le résultat du nouveau parti de Varoufakis, qui était à peu près la coalition de Syriza à l'époque, ça revient à peu près au même pourcentage. Et donc, en fait, au final, le vrai paradoxe est où est cette contestation, parce que je dirais même que le résultat nous amènerait à penser qu'en effet la population semble être plutôt plus au centre et plutôt modérée par rapport à cette austérité que l'on pourrait croire par rapport à la rhétorique initiale de Syriza.
Où est cette contestation? Elle pourrait peut-être se situer beaucoup plus au niveau local. On a vu que les élections municipales, là, le résultat, du coup, reflétait quand même un échec assez cuisant par rapport à Syriza. Eva Betavadi?
Oui, moi je suis pas tout à fait d'accord avec cette vision, dans le sens où l'électorat de Syriza, je pense, a beaucoup changé. D'ailleurs, les personnes qui se sont représentées pour Syriza pour les élections européennes n'étaient pas toutes adhérentes du parti avant 2015. Donc il y a eu quand même un changement assez radical à l'intérieur même du parti. Enfin, des bouleversements. Et donc, je pense que Syriza a attiré un électorat différent de celui qui a voté pour lui en 2015. Et donc,
comment, Eva Betavadi?
Ben, dans le sens où je pense qu'il y a quand même une grande partie des électeurs qui a été déçue par Syriza. Donc, c'est ça que je veux dire. Et d'autres qui ont commencé à penser que ça pourrait être une manière de transformer l'économie grecque ou alors de manière douce, on va dire, ou de sortir de ce cercle vicieux, en fait, dans lequel la Grèce est actuellement. Et donc, je pense que même si les résultats de Syriza ne sont pas mauvais, en effet, ça c'est vrai, mais ils ne traduisent pas un manque de contestation. Voilà.
Statis Kouvelakis, vous voulez intervenir sur cette question?
Oui, alors la contestation se trouve tout simplement dans l'abstention en réalité. Je crois que c'est ce qui s'est passé entre janvier 2015, quand Syriza a gagné les élections avec son programme justement de rupture avec l'austérité, et maintenant, il a perdu environ 500 000 de voix. Ce demi-million de voix n'a été que très faiblement capté par l'opposition, et il faut dire que faire la somme avec Varoufakis n'a aucun sens, parce que Varoufakis s'est présenté comme un opposant farouche à Tsipras, justement. Donc pourquoi ne pas additionner dans ce cas les scores du Parti communiste, qui est une autre force d'opposition tout à fait farouche à Tsipras? Non, ce qui se passe, c'est que on assiste à un phénomène de rejet de la politique, parce qu'effectivement des partis qui représentent la totalité du spectre politique ont alterné au pouvoir pendant ces 10 ans en Grèce, depuis la droite en passant par les socialistes jusqu'à la gauche radicale. Rien n'a changé au niveau de la politique. Donc ça se traduit aussi, et ça c'est le deuxième aspect, si vous voulez, de la réponse, par une baisse drastique du niveau d'attente des électeurs qui se déplacent encore aux urnes. Donc, incontestablement, le pourcentage de 31,2% de Syriza est un score meilleur qu'attendu, d'ailleurs, vu les résultats très mauvais aux européennes du mois de mai dernier. Syriza a profité d'une certaine logique du moindre mal par un secteur de l'électorat qui ne veut pas de la droite, tout simplement. Et ça, c'est le réflexe anti-droite, vu l'histoire grecque, où la droite est quand même associée à des décennies de politiques extrêmement répressives suite à la guerre civile, suite à la dictature des colonels, suite aux persécutions qu'a subi une partie de la population, il y a des réflexes anti-droite qui sont extrêmement enracinés. Avant, c'était le PASOK qui en profitait. Et là, c'est Syriza qui a d'une certaine façon s'écoulé, si vous voulez, dans la position qui était celle du PASOK auparavant, en devenant effectivement une sorte de parti social-démocrate qui gère des politiques néolibérales, comme le PASOK a pu le faire pendant ces derniers mandats.
Ce qu'il ressort de vos interventions à tous les trois, c'est que l'assise du nouveau Premier ministre Kyriakos Mitsotakis est quand même assez fragile, avec une opposition qui ne s'exprime pas, mais qui par l'abstention et par ce score, comme vous le soulignez tous, pas si mauvais que cela aux législatives, garde quand même une présence dans le paysage électoral. Et il y a une question peut-être sur laquelle peut buter ce nouveau gouvernement de droite de Kyriakos Mitsotakis. C'est peut-être celui de la dette. Alors Eva Betavadzi, vous avez beaucoup travaillé au sein du comité pour l'abolition des dettes illégitimes sur cette question-là et sur l'évolution du discours politique de la dette. Vous parlez dans l'un de vos articles d'une transformation qui a coûté cher à Tsipras. On a commencé par évoquer l'insolvabilité, la légalité, puis finalement on est passé de cela à une tentative de restructuration de la dette. Comment comment est-ce que le nouveau gouvernement, celui de Kyriakos Mitsotakis, peut se tirer de là? Est-ce qu'il peut faire mieux en termes de discours et puis en termes de mesures?
Alors, Mitsotakis est dans une situation assez facile à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il n'a plus à discuter de cette question parce qu'on a inventé le mensonge qu'on est sorti des plans austéritaires, alors que le dernier accord n'était pas une sortie, mais c'était un nouveau mémorandum sur plus de temps. Et donc, lui pouvait concentrer son discours sur l'allègement des mesures fiscales qui sont imposées par ce dernier accord. Donc, c'est ce qu'il a fait. Et donc, il a effacé la question de la légitimité ou de la légalité de la dette, qui était pourtant au centre du discours de Tsipras déjà en 2014, quand il a présenté en septembre 2014 son programme de Thessalonique, qui était censé être la base de son programme pour lequel il a été élu. Et donc, dans ce programme, l'effacement de la plus grande partie de la dette nominale, c'est-à-dire le capital et les intérêts, devait être effacé, donc, et devait être mis en cause avec une clause de croissance, donc pour permettre la croissance, et faire un moratoire, c'est-à-dire stopper pendant un moment le remboursement de la dette pour pouvoir permettre au pays de respirer. Et ensuite, en 2015, après le référendum, il y a eu la capitulation, et donc, à partir de ce moment-là, tout le discours change, mais c'est aussi sous l'impulsion de Varoufakis, qui ne croyait pas à la possibilité d'annuler ou de restructurer ou de faire faire des accords radicaux avec les créanciers. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que tout le discours de Syriza a changé après ce référendum, donc, sur la dette. Et la dette est devenue l'aboutissement de toute une série d'efforts qu'il fallait faire. Et donc, il fallait d'abord montrer aux créanciers qu'on était capable de faire des efforts. Il fallait qu'ils aient confiance en nous, qu'on puisse appliquer des mesures d'austérité, qu'on montre que l'économie ne va pas si mal pour que peut-être qu'un jour on puisse réussir à parler de la dette et la restructurer.
Et donc la question de l'insolvabilité, de l'illégalité de la dette est complètement sortie des radars des discours politiques au sein du gouvernement.
Alors, la soutenabilité de la dette n'était pas sortie du discours, dans le sens où la dette est colossale et qu'elle était insoutenable. Et le FMI le disait d'ailleurs après 2013-2014. Mais par contre, la question de la légalité, de la légitimité était complètement sortie. D'ailleurs, la présidente du Parlement grec, Zoé Kostandopoulou, qui était au premier gouvernement Syriza en 2015, avait créé la commission d'audit pour la vérité sur la dette grecque, une commission qui avait démontré la part d'illégalité et d'illégitimité de la dette grecque, avec une première conclusion qui a été présentée et qui a été complètement ignorée par la suite, sous prétexte que les créanciers n'écouteraient pas, que ça risquerait d'enlever le pays de la zone euro. Mais ça, c'est ce que Varoufakis disait. mais c'est pas le discours de tout Syriza. Donc il faut bien faire attention à ça.
Thiago Moreira Ramalho, comment est-ce qu'on peut annoncer et mettre en œuvre une baisse des impôts, notamment pour les classes moyennes, comme le propose Kyriakos Mitsotakis, le nouveau Premier ministre, et en même temps continuer à pratiquer une politique d'austérité?
En fait, je pense qu'à la base de cette nouvelle rhétorique de la droite grecque est l'idée que, en fait, c'est pas que je le pense, c'est assez évident et c'est dit que avec cette espèce de nouvelle politique de droite plus néolibérale, presque dans des certaines mesures d'aller au-delà de la Troïka, comme on disait au Portugal aussi, c'est que on aura une espèce d'assouplissement des termes. Donc en fait, le gouvernement de Mitsotakis est contraint à avoir un surplus primaire du budget annuel de 3,5% jusqu'en 2022. Donc c'est quelque chose d'assez important et en fait cette espèce de croyance qui est toujours un peu cette croyance que à un moment les créanciers vont croire qu'on est investi et du coup qu'ils nous vont donner des conditions un peu plus souples est en gros à la base de cette politique. Je dirais que pour un peu continuer ce que vient de dire Eva, l'extension des maturités de la dette grecque au cours des successives restructurations de la dette a fait que, en effet, la Grèce va continuer à devoir de l'argent aux pays européens jusqu'en 2060. Oui. Déjà, on ne sait pas si l'euro va durer jusqu'en 2060.
C'est donc un accord qu'a signé Alexis Tsipras l'été dernier qui donc engage la Grèce à...
Tout à fait, mais même avant cet accord, en fait, au long des successives restructurations qui ont eu lieu même avant 2015, il y a eu une constante extension de la maturité des dettes. Et en effet, et c'est quelque chose d'ailleurs dans l'histoire grecque, c'est une espèce de déjà vu, cette espèce de surveillance internationale par rapport à la dette pendant des décennies, c'est quelque chose qui n'est pas non plus inconnu dans l'histoire grecque, malheureusement. Et ce qui est important, à mon avis, de comprendre quand on parle de la dette dans l'avenir, c'est un peu de regarder ce qui se passe au niveau européen et la nouvelle configuration des institutions et des pouvoirs au niveau de l'Europe. Et je ne sais pas à quel point ça peut apporter de l'espoir, mais par exemple, le fait que Christine Lagarde, qui était à la tête de l'FMI, institution qui disait jusqu'à très récemment que la dette grecque n'était pas soutenable à long terme, est maintenant à la tête de la Banque Centrale Européenne. On ne sait pas à quel point ça va créer un impact, un effet sur les négociations qui vont presque forcément avoir lieu, mais je pense que c'est aussi probablement à la base de quelques croyances en ce moment du gouvernement grec.
Statis Kouvelakis, vous, sur la question de la dette, est-ce que le gouvernement de Kyriakos Mitsotakis peut buter sur cette question de la résolution de la dette, tout comme a buté le gouvernement d'Alexis Tsipras sur cette question?
Écoutez, il y a une phrase que Laurent Fabius, dans un rare moment de sincérité, avait dit après la défaite de la gauche française, après le premier mandat de François Mitterrand, quand la droite était revenue au pouvoir, et on se souvient évidemment du fameux tournant de 82-83, où la gauche avait mis en œuvre le début d'une politique néolibérale, justement. Eh bien, Laurent Fabius avait dit « Nous avons fait le sale boulot ». Eh bien, c'est une phrase qui convient parfaitement à Alexis Tsipras, sauf qu'Alexis Tsipras ne l'a jamais dite, hein, contrairement à Fabius. Il n'a jamais eu ce petit moment de sincérité. Donc la droite n'a pas grand-chose à faire. Ça a été dit dans les interventions qui ont précédé. Alexis Tsipras s'est engagé pour une politique d'austérité jusqu'en 2060. 2,5% jusqu'en 2060 d'excédent primaire et 3,5% jusqu'en 2022. Pour que les éditeurs comprennent, ces excédents budgétaires primaires sont l'outil à travers lequel l'austérité a été appliquée. Et pour vous dire à quel point c'en est, on parle en France de Macron qui met en place une politique d'austérité. La France a encore globalement, si vous voulez, un déficit, et le redressement qu'opère Macron opère sur quelques fractions de PIB, et on voit les effets que ça produit. Imaginez la Grèce qui a fait une sorte de redressement record, ce qui a signifié qu'on a sabré d'une façon incroyable dans les dépenses publiques. Il suffit d'aller dans un hôpital en Grèce ou de voir l'état des bâtiments scolaires pour se rendre compte de ce que ça veut dire concrètement pour la population. Le système de santé est dans un état de délabrement indigne d'un pays européen. Et en même temps, on a assisté à ce matraquage fiscal de tous les gens qui avaient quelque chose à contribuer en quelque sorte aux recettes, dont je tiens à signaler que l'autorité, si vous voulez, le trésor public grec n'est plus sous contrôle politique du gouvernement grec, il est sous le contrôle d'une instance dite indépendante qui en réalité ne rendait compte qu'aux créanciers et à la Troïka. Donc la dette, et ça a été dit, est le moyen à travers lequel la souveraineté du pays a été littéralement dévastée.
Et sur cette question,
c'est le moyen aussi à travers lequel un programme de privatisation absolument incroyable a été mis en place.
Du système de santé notamment.
En France, il y a une controverse sur la privatisation des aéroports de Paris, mais en Grèce, c'est pas simplement l'aéroport d'Athènes qui, de toute façon, était déjà entre les mains du privé. C'est la totalité des aéroports qui ont été privatisés par Syriza, la totalité des infrastructures, des ports, des centrales, des centrales thermiques, des chemins de fer, absolument tout par un gouvernement de gauche radicale a appliqué un programme devant lequel Thatcher pourrait être dite modérée. Donc voilà quels sont les résultats concrets, si vous voulez. Des engagements, voilà ce qu'il y a derrière ces fameux engagements sur les excédents budgétaires, dont il faut signaler qu'ils sont en pure perte.
Donc sur la question, excusez-moi Stathis Kouvelakis, je vous coupe, je vous interromps juste pour poursuivre le débat, mais sur ces questions donc de la dette et ces questions de privatisation et de des questions sociales, il y a une certaine continuité en fait de ce qu'avait commencé à faire Syriza, Eva Betavadi.
Vous voulez dire entre Mitsotakis et oui, tout à fait, oui. Mais d'ailleurs, ça va s'accélérer, je pense, hein, parce que c'est les objectifs premiers du gouvernement. Donc, de privatiser, par exemple, la compagnie d'électricité, de privatiser encore 30% de l'aéroport d'Athènes, l'aéroport national, parce que l'autre aéroport, l'ancien, était déjà privatisé. Ensuite, les raffineries pétrolières de Grèce. Enfin, il a tout un programme qu'il espère poursuivre très rapidement. Ouais.
Sur la question vraiment de la politique, donc il y a plusieurs réformes qui ont été mises en place et votées assez rapidement. Là, bon, il y a la réduction de la taxe foncière, mais la loi sur la réorganisation et la transparence du gouvernement et de la fonction publique centrale, le renforcement de la présidence du gouvernement, un organe dépendant du Premier ministre, donc un affaiblissement du pouvoir des ministres, ça s'est déjà mis en œuvre. Une réforme de la loi du travail sur l'absence de justification concernant les licenciements. L'embauche annoncée de 1500 nouveaux policiers, du renforcement du contrôle aux frontières, cette loi sur l'asile universitaire, donc un débat au sein de la société grecque s'annonce sur cette levée de l'asile universitaire. Comment sont accueillis, Stathis Kouvelakis, ces annonces et le vote de ces mesures si rapides par la population grecque?
Écoutez, il est encore trop tôt pour le dire. On est au cœur de l'été grec. Hein. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le gouvernement essaye de faire passer certains éléments durs, si vous voulez, de son programme. Ce qui est clair, c'est que ce qui se dégage est un profil extrêmement répressif. Vous avez signalé un profil extrêmement sécuritaire. Il faut mentionner une mesure que vous n'avez pas mentionnée dans votre liste, qui est déjà extrêmement parlante. C'est la suppression d'une circulaire ministérielle qui permettait aux migrants et aux réfugiés d'obtenir un numéro de sécurité sociale. Et ce, dans un contexte où la Turquie, à cause du conflit, de la situation conflictuelle entre Erdogan et l'Union européenne, et puis l'Occident, d'une façon générale, ouvre à nouveau les vannes. On a 7000 arrivées de migrants pour le mois dernier, ce qui traduit une hausse très sensible par rapport aux chiffres précédents. Eh bien, ces migrants nouvellement arrivés se voient rejetés littéralement dans l'illégalité et la marginalité la plus totale, parce qu'ils ne peuvent pas avoir ce numéro de sécurité sociale qui leur permet notamment l'accès aux soins et à tous les services sociaux. Donc on pousse véritablement ces gens dans une existence complètement insoutenable et complètement impossible, et ça va de pair avec tout le reste. La question des migrants est considérée comme une question sécuritaire par ce gouvernement. C'est ça la clé, si vous voulez, et ça annonce effectivement un durcissement considérable qui ne touche pas simplement les migrants, mais vous l'avez dit, tout ce qui bouge, toute source de contestation et toute source de mouvements sociaux dans la société grecque, ça va être le cas du mouvement syndical, ça va être le cas des universités. Voilà quel est le programme. C'est une politique de droite telle qu'elle l'a toujours appliquée. On ne pensait pas que ce genre de retour en arrière pouvait être possible. Il a fallu vraiment la faillite complète de la gauche de M. Tsipras pour qu'on en arrive là.
Et des mesures très marquées à droite, voire à l'extrême droite, comme vous avez commencé à l'expliquer, Stathis Kouvelakis, le ministère de l'Immigration donc a été supprimé et intégré à celui de la Protection citoyenne. Donc ce sont les policiers qui sont amenés à gérer les flux migratoires et la gestion de l'immigration en Grèce, de même que les institutions pénitentiaires vont être gérées par ce même ministère de la Protection des citoyens. Il y a des mesures donc marquées idéologiquement et des figures de l'extrême droite, du parti d'extrême droite Laos, donc Adonis Georgiadis ou Marcos Voridis, qui sont nommés respectivement au ministère de la Croissance et de l'Agriculture. Eva Betavadi, qu'est-ce que ça annonce de ce mandat de Kyriakos Mitsotakis, et comment en face la société grecque réagit? Vous qui avez été aussi en Grèce il n'y a pas si longtemps, qu'est-ce que vous avez pu voir, entendre des réactions de la société grecque?
Ce que ça annonce, c'est quelque chose de très inquiétant. De voir comment des descentes de police se font dans le quartier d'Exarchia contre les réfugiés.
Un quartier réputé comme étant un quartier d'extrême gauche.
Voilà, dans le centre d'Athènes. Il y en a eu deux rien que cette semaine. Ensuite, la présence policière s'est accrue, et Mitsotakis a dit de manière très cynique que c'était comme dans l'Occident. Donc, en fait, il en est même fier. Vous l'avez dit, l'asile universitaire, le fait que la police
ne puisse pas entrer
sur les sites universitaires, c'est un élément symboliquement extrêmement important en Grèce, étant donné l'histoire de la dictature des colonels, dont la fin est marquée par justement l'intervention dans l'école polytechnique d'Athènes des forces de l'ordre contre les personnes qui se trouvaient dans l'école polytechnique. Donc, symboliquement, Mitsotakis veut faire passer le message que son gouvernement est un gouvernement qui n'a pas peur d'être autoritaire et qui n'a pas peur de faire taire toute forme de contestation, avec un imaginaire très...
Juste une dernière question pour le très peu de temps qui nous reste, Stathis Kouvelakis. En face... Qui peut s'opposer maintenant à ce gouvernement de droite de Kyriakos Mitsotakis? Syriza s'est posé d'emblée comme un pilier du bipartisme. Les partis de gauche ont fait des scores vraiment très très minimes aux dernières élections législatives. Qu'est-ce qu'il y a en face de la nouvelle démocratie aujourd'hui?
Oui, deux choses. Je crois qu'il faut dire très rapidement. La première, c'est que la défaite de Syriza mais aussi la politique qu'il a mis en œuvre pendant toutes ces années ont fait une sorte de pédagogie du renoncement auprès de la société grecque. C'est-à-dire, les gens pensent effectivement qu'il n'y a pas d'alternative, et c'est sur cette base, d'ailleurs, justement, que le moindre mal a pu l'emporter chez certains qui se sont prononcés en faveur de Syriza. Par ailleurs, il existe quand même une opposition de gauche à Tsipras. Ça, il faut le dire. C'est-à-dire, si on fait le total des formations qui sont à gauche de Syriza, on obtient quelque chose autour de 11% aux dernières élections entre le Parti communiste, Varoufakis et d'autres formations plus petites. Mais c'est là où est le problème, justement, c'est que cette opposition de gauche est extrêmement fragmentée, dominée par un parti communiste extrêmement sectaire, et la formation de Varoufakis a eu un résultat, on va dire, honorable, mais elle n'existe que par sa présence médiatique sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas derrière une présence militante, il n'y a pas une présence dans les mouvements sociaux. Donc une fois de plus, le front d'une possible opposition se transfère au niveau de la société. Il s'agit de voir d'en bas comment est-ce que la société va réagir, si elle a encore des capacités de résistance après toutes ces années d'austérité très dure, mais aussi de délabrement politique qui ont été la conséquence de la capitulation de la gauche.
Merci beaucoup à tous les trois. Et d'ailleurs, on aura les réponses sans doute de vos questions, de vos dernières questions, Stathis Kouvelakis, à la rentrée, peut-être avec des premières mobilisations, comme vous sembliez aussi le suggérer. Eva Betavadzi, merci à vous trois, Stathis Kouvelakis, Eva Betavadzi et Thiago Moreira Ramalho, de votre présence en plateau. Des liens vers vos publications et travaux seront en ligne sur le site de l'émission. On pourra également réécouter cette discussion à venir, un plateau catastrophe naturelle et urgence climatique. تذكري لما قلتي لي انك رح تتزوجيني بلا فلوس وبلا بيت تذكري كنت تحبيني مع اني مش داخل دينك تذكري كيف كنا هيك تذكري لما امك شافتني نايم بيت اختك قالت لي انسى عنك واتفقنا نضلنا هيك بلا دوار وطنطنات بلا كرافات وصبحية بلا ما لقين بلا C'était Fazatine du groupe libanais Mashrou Leila, une chanson dans laquelle le chanteur reproche à son amant de ne pas assumer leur relation au grand jour par peur des rumeurs. Ce groupe, donc Mashrou Leila, devait se produire hier au Festival international de Byblos au Liban, mais il a été une fois de plus censuré. D'habitude, c'est en raison de l'engagement du chanteur du groupe en faveur de la cause LGBT. Là, il s'agit d'une accusation de blasphème sur les réseaux sociaux. Hier soir, pour protester contre cette censure, 1500 personnes se sont réunies pour un concert improvisé à Beyrouth.
Le magazine du week-end, Émilie Chaudet.
Deuxième partie de notre magazine du week-end à 13h17, où là aussi la jeunesse a son mot à dire. On pourrait se rappeler les mots de la jeune militante Greta Thunberg lors de sa venue à l'Assemblée nationale à la fin, le 23 juillet dernier, qui répondait aux remerciements policiers de l'Élysée par cette simple et cinglante phrase « Au lieu de nous dire merci, faites quelque chose ». Une phrase que bien des citoyens engagés pour lutter contre les catastrophes naturelles pourraient reprendre à leur compte. Le constat, c'est celui d'une inaction ou au mieux d'un manque de réactivité des pouvoirs publics sur la question climatique. Alors que dire en cette période d'été où l'on voit autour de nous les incendies et les inondations se multiplier? La question du faire devient centrale, urgente et d'autant plus prégnante si l'on se penche sur la question des catastrophes naturelles. Mais comment, à quelle échelle et avec quels moyens? Ce sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec nos trois invités. Bonjour Chloé Gerbier.
Bonjour.
Vous êtes référente juriste au sein de l'association Notre Affaire à Tous, association qui est avec trois autres à l'origine d'une poursuite engagée contre l'État pour son inaction face à l'urgence climatique. Vous vous occupez principalement des recours locaux en France. En face de vous, Gaëlle Musquet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes météorologue de formation et vous avez fondé l'association HAND, acronyme pour Hackers Against Natural Disasters, pirates informatiques contre les catastrophes naturelles en français. Et vous aurez bien sûr l'occasion de nous en dire très vite un peu plus sur votre action. Et au téléphone, nous sommes avec Léa Kimber. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes doctorante en sociologie à l'Université de Genève et spécialiste des programmes de l'ONU relatifs à la gestion des risques et des catastrophes naturelles.
Aux quatre coins de la planète, les catastrophes naturelles se multiplient. Chaque année, 26 millions de personnes basculent dans la pauvreté à la suite d'événements climatiques extrêmes.
Des rafales de plus en plus puissantes. Sur l'île de Saint-Martin, on n'entend plus que le vent et la pluie. L'ouragan Irma, catégorie 5, le voici, avec ses rafales qui ont été mesurées à 360 km/h cette nuit. Il a la taille de la France.
Les orages et les pluies diluviennes ont duré 3 heures à Pont-Salomon. Largement suffisant pour former d'immenses torrents de boue dans les rues de la commune et inonder quelques habitations.
Même les voisins, ils n'ont jamais vu ça ici en 15 ans.
Amber et sa mère progressent lentement à travers les flammes. Elles sont parmi d'autres véhicules fuyant l'incendie. Tous veulent quitter la ville de Paradise au plus vite.
On a pensé que les pneus allaient fondre, que la voiture allait fondre.
En Sibérie, des forêts qui partent en fumée. Mais ces incendies ont cette année une ampleur inquiétante. Selon les autorités russes, depuis le début de l'été, ce sont plus de 3 millions d'hectares qui ont déjà brûlé. C'est plus que la superficie de la Belgique.
Petit aperçu des catastrophes naturelles survenues ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois. L'ouragan Irma à Saint-Martin, le plus puissant enregistré depuis 1980, qui a dévasté l'île donc de Saint-Martin en 2017. Les inondations à Pont-Salomon en Haute-Loire en ce moment. Le village californien de Paradise et ses 3 millions d'hectares de forêt sibérienne détruits par les flammes ces jours-ci. Alors déjà, moi je voudrais qu'on se penche sur la définition que l'on peut donner aux catastrophes naturelles. Un centre d'études de réflexion German Watch a classé 180 pays en fonction du nombre de décès et de pertes engendrées par des événements météorologiques extrêmes. Ça regroupe donc les tempêtes, les ouragans, les cyclones, les inondations et les températures extrêmes. Les tremblements de terre et les éruptions volcaniques et les tsunamis n'en font pas partie, ne dépendant pas, dit cette étude, du dérèglement du climat. Alors qu'est-ce qu'il est juste tout d'abord d'appeler une catastrophe naturelle, Gaël Musquet ?
Alors c'est un état en fait atmosphérique, ou alors même si on ne met pas les secousses telluriques et les volcans dans cette catégorie là, ce sont des aléas qui vont perturber le fonctionnement d'une ville, d'un territoire, et la capacité de ce territoire justement à se remettre debout, c'est ce qu'on appelle un peu la résilience, et c'est sur quoi aujourd'hui on travaille. Et ces catastrophes naturelles s'accélérant et devenant de plus en plus graves, il est de plus en plus compliqué aujourd'hui de se remettre facilement, rapidement de cet état perturbé, cet aléa, qui derrière, avec les vulnérabilités, les constructions humaines, les réseaux de télécommunications, les infrastructures humaines qui se sont rajoutées à ce territoire, mais peuvent accentuer cette catastrophe naturelle et la rendre encore plus grave. On l'a vu avec Fukushima. Un aléa sismique qui entraîne un tsunami, qui entraîne une catastrophe technologique qui, lui, pour le coup, cet incident technologique dure dans le temps.
Et comment est-ce qu'on peut agir au niveau politique local sur des événements qui, par définition, s'avèrent incontrôlables ? C'est-à-dire que si on suit la définition de ce groupe de réflexion de German Watch et qu'on exclut des événements qui ne sont pas du tout liés, qui ne sont pas du tout liés au réchauffement, au dérèglement du climat, comment est-ce que au niveau politique, au niveau juridique, on peut se dire bon, on va essayer quand même de contrôler, Chloé Gerbier ?
Alors justement, sûrement sur ce concept de résilience. En effet, on n'est pas tous impactés pareillement par les catastrophes naturelles. Il en va de même pour le changement climatique. Aujourd'hui, on travaille pour une justice climatique. Et cette justice climatique, c'est prendre en compte que le changement climatique crée aussi des inégalités sociales. Et nous, ça va être ce travail-là qu'on va entreprendre. C'est-à-dire voir au niveau local la manière dont on peut accompagner les civils et mieux les protéger.
Alors tous les deux, vous avez dit ce même mot de résilience. Alors on va voir avec Léa Kimber qu'il a son importance, surtout dans les textes de l'ONU. Mais j'aimerais savoir pour vous ce qu'il représente et ce qu'il revêt, ce concept de résilience. Est-ce que ça veut dire que ce sont aux populations de prendre en main leur protection et la prévention de leur territoire au niveau ultra-local ? Gaël Musquet ?
On a tous un rôle à jouer, tous. On a une faible culture du risque en France, malheureusement. Les États doivent la sécurité aux citoyens. Ça, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme qui le dit, article 3. Les États nous doivent la sûreté. C'est vrai. Une fois qu'on a posé ça, quand on lit les lois de sécurité intérieure, les lois qui touchent un peu la réglementation de la sécurité civile en France, chaque citoyen est responsable de sa propre sécurité et de celle de son entourage. Donc, on doit se préparer quand on sait que l'on est impacté et qu'on est dans une zone à risque. On doit se préparer à ces catastrophes et à ces risques. Alors, il y a des documents qui existent, des DICRIM, donc documents d'information communale des risques et majeurs. Ça, c'est au niveau des communes. On a des PPMS, des plans de prévention, des plans de préparation, de mise en sûreté qui touchent les écoles, les établissements scolaires. Quand je dis ces acronymes, peu de personnes les ont lus, peu de personnes savent même qu'ils existent. Ils sont accessibles en mairie. Souvent, les mairies les mettent en ligne. Il faut lire ces documents. C'est important parce que dans ces documents, on trouve la liste des choses minimales dont on doit se procurer, qu'on doit se procurer. Donc, un minima de l'eau, c'est la première nécessité. Ensuite, la nourriture, évidemment, des moyens de pouvoir s'informer en temps et en heure, à la fois pour être alerté, mais aussi connaître les consignes et les instructions données par les collectivités, par les institutions.
Les documents officiels auxquels vous faites allusion, mais aussi à plus haute échelle, à celle de l'État ou même de l'ONU, présentent souvent des listes d'objectifs un petit peu opaques, c'est-à-dire qu'il y a des objectifs, on doit arriver à tel niveau d'ici à 2050, d'ici à 2060, mais il n'y a pas vraiment de marche à suivre et surtout pas de mise en commun sur une éventuelle marche à suivre. Et j'aimerais savoir, avant de passer à la suite, selon vous, Chloé Gerbier, vous qui avez employé le mot de résilience, qu'il revêt pour vous ?
Alors, vous avez posé la question de si c'était aux citoyens de se saisir de ce problème. Je pense que le principal problème, c'est qu'il n'y a plus le choix. Aujourd'hui, on est dans un déni au droit à un environnement sain, qui est patent. Et donc, les citoyens...
Quand vous dites un déni, vous faites allusion à l'affaire du siècle ?
Notamment l'affaire du siècle, oui.
Donc, où l'État a refusé donc de
voilà,
répondre.
On a attaqué l'État pour négligence fautive. C'est-à-dire que l'État ne prend pas en charge cette protection.
Et sa réponse a été de dire, on fait déjà ce qu'il faut.
Pour l'instant, on attend encore le mémoire complémentaire, mais oui, sous-entendu, c'est bien ça la réponse. Et notamment face aux plans locaux d'urbanisme, les PLU, qui prennent aussi en charge les risques qui les incluent, on a un pouvoir politique qui se doit de préserver les zones vertes, qui se doit de préserver ce qui nous reste de biodiversité. Et les citoyens, s'ils s'en saisissent aujourd'hui, c'est qu'ils les voient détruites et que c'est leur seul moyen de levier va être le droit et l'action en justice.
Et on va voir avec vous que c'est pas si simple, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais avant cela, j'aimerais entendre Léa Kimber sur cette question, parce que vous, Léa Kimber, dans vos travaux, le mot résilience est un mot important qui revient. Vous lui faites vraiment un sort sur plusieurs pages de vos travaux, sur les textes de l'ONU. En d'autres termes, donc la résilience, c'est donc les populations touchées par les catastrophes s'en remettent, et ce sont elles, les populations, qui sont le mieux à même de savoir ce qui leur manque et quels moyens elles peuvent mobiliser sur leur territoire. Est-ce qu'il y a dans ces textes votés au sein de l'ONU une forme de résignation, voire de dédouanement ? Est-ce qu'on peut voir ça comme ça, Léa Kimber ?
Ce qui est intéressant avec le concept de résilience, c'est vraiment un concept non controversé. Donc, il est intéressant pour tout le monde parce qu'il répond autant aux prérogatives internationales, tant aux prérogatives des États-nations et aux citoyens ensuite de ces États-nations. Donc, il a vraiment une force, ce concept-là, parce qu'il peut répondre à l'ensemble des problèmes dans une perspective très positive, ce qui donne l'impulsion d'une réussite et d'une capacité à rebondir sous toutes les coutures.
Et alors, rebondir comment, justement ? Parce que là, j'ai l'impression que, du coup, on perd presque de vue la notion de prévention, mais qu'on est déjà dans l'après. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, après, à notre échelle, pour réparer ? Gaël Musquet, vous voulez intervenir ?
La force du concept... Pardon.
Non, allez-y, Léa Kimber, du coup, vous avez commencé.
Non, pas, excusez-moi. Non, enfin, je voulais juste rajouter que la force du concept, c'était justement de pouvoir parler de l'avant, de la pendant la catastrophe et ensuite de l'après du poste. Donc il y a ante et poste, et le concept de résilience peut vraiment prendre en compte toute la complexité des catastrophes naturelles.
Gaëlle Musquet.
Alors on a tous en tant que citoyens plus ou moins des compétences, des talents. Alors certains ont des compétences juridiques, d'autres ont des compétences techniques. Alors c'est vrai que mon association se focalise essentiellement sur la partie technique, technologique, comment la technologie peut aider des personnes à mieux prévenir ces catastrophes. Alors,
parce que je précise, donc je vous coupe un instant pour préciser que le contenu de votre site internet, donc de l'association HANDS, c'est de mettre en commun des savoirs, savoir se servir d'un poste de radio, savoir utiliser une telle technologie pour arriver à survivre ou à prévenir. Mais la prévention, j'ai l'impression que quand même elle n'est pas tellement mise en valeur, parce que c'est vraiment l'après qui compte. Qu'est-ce qu'on sait après ?
Justement, la prévention, pour qu'elle soit efficace, faut justement anticiper, être capable d'imaginer ce qui pourrait arriver de pire. Et alors, j'ai parlé de nourriture tout à l'heure, d'eau, ces besoins fondamentaux, s'abreuver en eau, se nourrir, et ensuite, évidemment, si on est blessé, se soigner. Pour pouvoir faire tout ça, il faut qu'on se dote en amont d'un certain nombre d'objets. Donc, alors... tout le monde a un téléphone portable aujourd'hui, tout le monde a le réflexe du réseau social.
Tout le monde, mais bon.
Souvent, c'est un des premiers réflexes, souvent même avant, pour certaines personnes, d'appeler le 18, les pompiers, oui, les autorités, de tout de suite utiliser le réseau social. Et c'est un peu notre objectif, c'est d'apprendre aux gens justement à utiliser correctement ces réseaux sociaux. Une autre association le fait très bien, qui s'appelle Visov, utiliser les médias sociaux en gestion d'urgence. C'est un métier. Les pompiers aujourd'hui se dotent de pompiers spécialisés dans les réseaux sociaux, justement pour anticiper les débordements qui pourraient subvenir à cause de ces réseaux sociaux, des rumeurs, et être capable d'envoyer correctement un message pour que les gens aient les bonnes consignes. On est aussi certains radioamateurs. Donc moi, je suis radioamateur, on a une licence. L'État nous a donné une licence, on a passé un examen où l'État nous autorise, vérifie qu'on a les compétences juridiques pour savoir comment utiliser nos émetteurs radio, expérimenter.
Qui sont déjà peut-être un peu plus fiables que les portables en temps de catastrophe naturelle.
Ils sont plus résilients pour plusieurs raisons. Un, parce que le radioamateur a déjà l'objectif d'utiliser un minimum d'énergie pour pouvoir faire fonctionner ses postes radio, expérimenter et travailler vraiment sur les aspects de solidarité. Avant les crises, savoir qui on va contacter. Jusqu'à quelle portée on peut utiliser ces radios. Et quand je disais que tout le monde a son rôle à jouer dans la chaîne en fait d'alerte, une radio comme Radio France, France Culture a son rôle. Et en fait, vos réseaux radio numériques et analogiques, déployés en ce moment le numérique, le DAB+, ben, ces réseaux disposent tous de systèmes d'alerte. Et pour que ces systèmes d'alerte fonctionnent correctement, il faut faire des exercices pour que les citoyens s'habituent à recevoir des signaux d'alerte. C'est aussi une de nos principales. L'objectif, c'est que les personnes et que la France se dote d'un système d'alerte des populations qui ne soit pas uniquement des sirènes et pas uniquement des réseaux sociaux.
Et vous, Gaëlle Musquet, vous dites les moyens, on les a, c'est un manque de volonté politique plutôt.
Tout à fait. On a, dès 1997, à Sophie Antipolis, créé un système d'alerte qui s'appelle l'alerte cellulaire, qui permet sur tous les réseaux de téléphonie mobile d'alerter les populations en cas de crise. On est l'un des rares pays, et l'Union européenne va nous obliger à déployer ce système d'ici 2022. Faut pas oublier qu'on a les Jeux Olympiques en 2024, que Marseille, qui va accueillir les Jeux Olympiques, la partie nautique, est une zone à risque de tsunami. La Méditerranée est une mer à tsunami. Messine, 1908, 50 000 morts. On l'oublie, les Européens oublient. On a parlé de crise migratoire tout à l'heure. Les premières crises migratoires du début du siècle dernier étaient liées à des catastrophes naturelles, pas à cause de la guerre. On a des milliers de Siciliens qui ont quitté la Sicile, rejoint les États-Unis parce qu'ils étaient victimes d'une catastrophe naturelle. Donc il faut que ces Européens se souviennent que ce qui s'est passé déjà dans le passé, évidemment, mais que ces fêtes qui vont bientôt nous rassembler, où on va fêter la solidarité, fêter la fraternité, vont être aussi des vecteurs aujourd'hui, demain, dans 2024, de catastrophes potentielles, de surcatastrophes. Donc, il faut qu'on soit prêt.
Mais c'est justement peut-être aussi ça le problème, c'est que vous dites qu'il faut qu'on se souvienne. Il y a des territoires dans le monde où des catastrophes naturelles arrivent extrêmement souvent. On peut penser à l'Indonésie, où des tsunamis arrivent assez régulièrement. Et pourtant, voilà, il y a pas forcément de mesures prises en place pour prévenir. Alors maintenant, les autorités locales savent gérer après, mais le système de prévention n'est pas forcément au point. Léa Kimber, c'est aussi ce que vous aviez relevé dans vos travaux, c'est que il y a des chartes votées, il y a la charte de Sendai en 2015, il y a des objectifs assez vagues, mais on est bien plus dans le constat que dans le faire en vérité.
Au niveau international, c'est vrai qu'on est plutôt dans une à vouloir donner des directives pour donner une impulsion et montrer où est-ce qu'on tend. Sans vraiment donner de mesures concrètes, parce qu'il faut se souvenir que l'ONU est constituée de plus de 190 États membres qui doivent ratifier un texte qui doit pouvoir être appliqué à toutes ces nations qui ratifient ce document. Donc c'est assez compliqué de pouvoir avoir des précisions quant à comment implémenter les directives.
Mettre en œuvre, oui.
Parce qu'il faut que ce soit, justement, il faut que ce soit suffisamment large pour que chacun puisse l'adapter à ses besoins et par rapport à ses législations propres.
Et vous dites aussi, Léa Kimber, que c'est qu'il y a une volonté politique, mais que c'est aussi un problème de ressources. Si on n'arrive pas à trouver un moyen de prévenir dans certains territoires les catastrophes naturelles.
Ce que j'ai envie de pouvoir dire quand même en amont, c'est qu'une catastrophe naturelle, on parle que de catastrophe naturelle au moment où elle a un impact sur l'être humain. Oui. Parce que si un ouragan touche l'Alaska, on ne parle pas de catastrophe naturelle parce qu'il n'y a pas d'être humain, il n'y a pas vraiment de perte humaine dans un territoire comme ça. Donc on parle vraiment de catastrophe naturelle au moment où ça touche une population. L'ONU essaye de prendre acte des catastrophes naturelles qui ne font qu'augmenter avec les changements climatiques, etc. Mais donc met en avant toute une série de directives qui sont non controversées pour pouvoir agir au niveau international, mais aussi au niveau des gouvernements et des autorités locales. Donc c'est aux autorités locales au final de pouvoir s'emparer de toutes ces problématiques parce que c'est eux qui connaissent vraiment les topographies, par exemple, et puis tous les risques que les autorités pourraient ou les territoires pourraient engendrer.
Alors justement, on parle de mise en œuvre locale. Il y a un cas plutôt emblématique, un rapport de la Fabrique écologique, donc qui est un think tank français, a mis en lumière des difficultés d'adaptation de communes de bord de mer confrontées au risque d'érosion et de submersion. Et donc il se trouve qu'en France, une mission parlementaire a été lancée sur l'adaptation des territoires littoraux face à l'évolution du trait de côte. Et les conclusions à l'automne prochain doivent donner lieu à une proposition de loi. Mais déjà, le constat, c'est qu'il manque aux élus un outil financier et juridique, Chloé Gerbier, et c'est là que vous intervenez. En fait, il y a un vide juridique, on pourrait dire, du côté du faire face à l'urgence climatique, face à ces catastrophes naturelles qui s'annoncent.
Alors, je ne sais pas si on pourrait parler de vide juridique, mais on a des outils, mais aujourd'hui, ils ne sont pas opposables. C'est-à-dire qu'ils existent. Ils peuvent nous servir à calculer l'impact, par exemple, vous parliez des Jeux Olympiques, mais il y a beaucoup d'installations pour ces Jeux Olympiques qui vont être mises en place. Et c'est des installations qui peuvent être coûteuses écologiquement. Il faut pas se tromper. Et donc on a cet outil qui s'appelle l'étude d'impact environnemental. Elle permet, avant construction, par exemple, d'un ouvrage autoroutier ou justement d'une de ces infrastructures, de voir l'impact qu'aura ce projet sur l'environnement. Et le problème aujourd'hui, c'est que même si cette étude d'impact, elle revient négative, voire affolante, elle n'est pas opposable. Elle est là à titre d'information. On ne va pas pouvoir interdire ce projet en se basant sur cette étude. En fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a les outils. On a des outils qui sont mis en commun avec ce code de l'environnement. Mais à aucun moment, les citoyens vont pouvoir s'en saisir pour attaquer un projet en justice. Et c'est là que nous, on va essayer de jouer.
Et pourquoi ?
Alors, et pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas que ces projets soient attaqués. Ces projets, là, ici, on retourne sur le bon vouloir des politiques. Aujourd'hui, on ne veut pas que ces projets soient attaqués. On parle d'ensembles autoroutiers, on parle aussi d'usines de laine, d'usines pétrolières même. Mmh.
Concernant ce cas donc que je venais de vous citer des communes de bord de mer, donc il a été décidé, une mission interministérielle a proposé d'abandonner la solidarité nationale au profit d'une locale et de la création d'un fonds d'aide à la recomposition du littoral, donc pour les communes concernées. Est-ce que c'est vers ça que l'on va? On délègue, puisqu'on ne peut pas financer et prévoir la prévention au niveau national ou supranational, on va déléguer petit à petit la prévention, la mission de prévention au niveau local.
Alors, le problème quand on se sert de l'outil juridique, c'est que ici, justement, avec ce manque d'opposabilité du code de l'environnement, on va pouvoir traiter le problème qu'à posteriori. Donc, en fait, on va traiter les conséquences alors qu'on pourrait...
Voilà. Donc, on laisse tomber la prévention, encore une
voilà,
fois.
Voilà, on laisse tomber la prévention, on laisse tomber le fait d'empêcher, tout simplement.
Gaëlle Musquet.
Depuis 2011, ce que l'on fait à notre niveau, en tant que citoyen, c'est qu'on utilise justement ces dispositions supranationales. L'UNESCO, une ISDR aussi, ont mis en place des exercices sur tous les océans. Donc en 2019, on n'en a eu qu'un.
Vous avez participé d'ailleurs au sein de l'association END.
Tout à fait. Depuis 2011, on fait Caribou. Je lis presque sur mon t-shirt. On fait cet exercice international. C'est plus de 800 000 personnes qui s'entraînent à faire face à un tsunami. Pourquoi on s'est focalisé sur ce risque de tsunami? Parce que alerter
800 000 personnes issues de la société civile?
Tout à fait, tout à fait. Et des gouvernements aussi qui se coordonnent pour faire face dans la Caraïbe à un tsunami. Depuis 2015, on fait cet exercice sur place et on n'a rien demandé à personne. On y va avec nos moyens, on a des sociétés qui nous aident, on a des mécènes, la Fondation de France, des fondations qui nous accompagnent. Et c'est pour nous important
qu'en tant que citoyen, mais aussi que les entreprises se saisissent de ces sujets, qu'elles financent aussi la solidarité, qu'elles financent aussi la résilience.
C'est pas à l'État de prendre en charge.
Tout le monde a son rôle à jouer. Je le répète vraiment encore, tout le monde a son rôle à jouer. Vous savez, les grandes sociétés américaines ont très bien compris ces sujets. Elles ont pratiquement toutes une offre de résilience et de gestion de crise. C'est aussi à nous, en tant que Français, en tant qu'Européens, de bâtir aussi des structures technologiques, des réponses technologiques qui permettent de répondre à ces questions. En 2020, il va y avoir trois exercices.
Tous les citoyens n'en sont pas encore là.
Tout à fait, comme tous les citoyens ne sont pas mécaniciens. Tous les citoyens ne sont pas boulangers. Et c'est ça qui doit faire le tissu de la solidarité, c'est que toutes ces compétences juridiques, technologiques, scientifiques, techniques doivent recomposer la solidarité. Ce que l'on fait dans un exercice comme Caribou Wave, c'est qu'on apprend aux gens à retravailler ensemble à l'échelle d'un quartier. On a eu énormément d'incendies l'année dernière et cette année à Paris, et où on se rend compte qu'on parlait pas à son voisin, mais qu'on est prêt à ces moments difficiles de tous se mettre ensemble pour trouver une solution, pour avoir la vie sauve. C'est aussi ça, la solidarité et la prévention, c'est être capable humainement, à l'échelle de son quartier, de sa ville, de savoir qui est capable de quoi, et qui, au moment où les choses vont vraiment aller mal, sur qui on va pouvoir compter. On va d'abord pouvoir compter sur son voisin. On l'oublie souvent, mais l'État sera là tout à la fin. Irma, à Saint-Martin, certains bateaux ont mis des semaines à arriver. Les gens ont dû compter sur eux-mêmes d'abord. Il faut apprendre à compter sur ses voisins.
Alors avant d'entendre Chloé Gerbier sur cette question, Léa Kimber, vous disiez qu'il y avait aussi un décalage entre les besoins et les ressources sur place. Donc, est-ce que vous rejoignez la position de Gaëlle Musquet selon laquelle l'État intervient après, de toute façon?
Ce que je trouve qui est intéressant avec ce que vous disiez, c'est que finalement, quand on reprend le concept de la résilience, ça reste un concept assez néolibéral qui nous permet de dire, on dédouane, on se dédouane, les États se dédouanent peut-être un peu trop, peut-être, des impacts, des catastrophes naturelles et demandent aux citoyens de s'arranger eux-mêmes. Mais on a de la chance aussi de se dire qu'en fait, comme disait la personne sur le plateau, que c'est finalement le voisin qui va pouvoir aider en premier recours. C'est pas les autorités locales, c'est pas les gouvernements. Et c'est en ça que le concept de résilience est fort, parce qu'il donne vraiment une impulsion claire au niveau international, mais aussi au niveau très local, sur le fait que il faut compter sur le réseau et sur la bonne connaissance du réseau et du voisinage.
Mais si on en croit les différents articles et factuels et d'analyse sur les différentes catastrophes qui sont survenues ces derniers mois, ces dernières années, est-ce que compter sur son voisin et se mobiliser à cette micro-échelle, c'est suffisant? Est-ce que là on n'est pas en train de se contenter de cette solution d'hyper proximité, et alors que peut-être que les États justement ont un rôle à jouer en termes de moyens? Chloé Gerbier.
Tout à fait, moi je suis assez d'accord avec ce constat, c'est-à-dire que après, oui, la résilience, évidemment, 2 millions de signatures, l'affaire du siècle, c'est pas rien, c'est une société civile qui demande quelque chose. Mais il ne faut pas oublier non plus que selon le rapport Carbon Majors, on est sur 90 sociétés pétrolières qui émettent 2/3 des gaz à effet de serre. Le changement climatique, oui, la société civile peut se battre contre, mais on a un énorme poids politique et des industries. Aujourd'hui, on a une loi qui s'appelle la loi Pacte, qui impose un devoir de vigilance. Les entreprises n'ont pas pris ce plan de vigilance, ce plan qui est censé maintenir la température de notre planète en dessous d'une trajectoire plus 1,5.
Le message politique, en plus, n'est pas très encourageant. Si on regarde en mai 2019 en France, un texte a été publié, adapté la France au dérèglement climatique à l'horizon 2050, urgence déclarée, avec le constat qu'il est déjà trop tard. Et que l'on réduise ou non les émissions globales de gaz à effet de serre, en fait, il faudra de toute façon faire face à une aggravation significative de divers impacts du réchauffement climatique, des submersions côtières, des risques d'incendie. Donc on mise en France et dans ce rapport, c'est un rapport ministériel, j'ai oublié de le préciser en particulier, sur des politiques dites d'adaptation plutôt que des politiques d'atténuation qui arriveraient aujourd'hui donc trop tard. En gros, la prévention au niveau politique, dans le champ lexical politique, n'a plus de sens aujourd'hui.
Alors, je crois que
il faut s'adapter.
C'est Greta Thunberg qui avait dit « il n'est plus temps d'espérer, maintenant il faut paniquer ». En effet, peut-être dans le lexique, ça n'a pas plus lieu d'être. Mais aujourd'hui, on continue encore à autoriser des projets massivement polluants. On a l'entreprise Total qui a publié un rapport de vigilance avec une trajectoire à plus de 3 degrés. Et tout ça, dans l'impunité la plus totale.
Et alors, quel levier on a aujourd'hui, nous, en tant, enfin, à notre échelle pour, est-ce que c'est à notre échelle qu'on peut agir le mieux et le plus ? Chloé Gerbier.
On peut agir à notre échelle, on peut agir bien et surtout mieux, mais aujourd'hui c'est aux politiques de prendre leurs responsabilités. On ne peut pas, le citoyen, même en agissant de manière modèle, même si tous les citoyens en France agissaient de manière modèle, on ne réduirait pas assez nos gaz à effet de serre, on n'atteindrait pas cette trajectoire. Les quotas carbone sont à mettre en place et on a cette société civile, ce qu'elle peut faire de mieux aujourd'hui c'est se lever et essayer de contrer les entreprises et les industriels.
Léa Kimber, vous parlez aussi dans vos travaux du concept de redevabilité. En fait, c'est l'État dans certains pays peut éventuellement prendre en charge ces questions d'urgence climatique et liées aux catastrophes naturelles parce qu'il y a ce concept de redevabilité. Est-ce que vous pouvez clarifier ?
Le problème, c'est que les documents qui sont ratifiés à l'ONU sont des textes très vagues. Même s'ils donnent des lignes, des directives assez floues, ça reste un document vague qui permet pas en fait de retracer la redevabilité. Donc c'est surtout il y a un certain texte sont non contraignants, juridiquement contraignants. Donc c'est vraiment à la bonne volonté des États de mettre en place ces directives pour pouvoir aller de l'avant. Donc il n'y a pas le concept de redevabilité, il est assez flou au niveau international et c'est ça que je mets en avant, alors que au niveau des autorités locales et des gouvernements, ça reste encore très très flou aussi, mais il y a peut-être plus de possibilités de mise en œuvre au niveau des gouvernements plutôt qu'au niveau à l'échelle internationale.
Chloé Gerbier, vous êtes donc référente juriste au sein de Notre Affaire à Tous, donc cette association qui a engagé une poursuite contre l'État, donc l'affaire du siècle. Et il se trouve que là, dans le monde, on a recensé en 2017 plus de 900 recours en justice. Donc est-ce que le levier juridique va être finalement le levier le plus utilisé, le plus crédible aujourd'hui aux yeux des citoyens pour agir sur les catastrophes naturelles, sur la réforme du code de l'environnement en France, par exemple, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ?
Alors bien sûr, donc ces recours, ces actions en justice, elles existent à plusieurs échelles. On a un mot qui était très intéressant, c'est le mot contraignant. En effet, il s'agit ici de contraindre l'État à ce à quoi il s'est engagé, même de manière vague. Mais il doit quand même mettre en place des choses concrètes.
Ce qui concrètement, pour vous, dans les dossiers que vous traitez, est quand même très difficile. Il faut trouver des failles juridiques. Il y a rien. Vous n'avez aucun outil à disposition pour contraindre les États. Vous et les collectifs qui se battent et que vous aidez.
On a très peu d'outils concrets. On va avoir des déclarations d'intention, les accords de Paris, ce genre de choses, mais très peu d'outils concrets en effet. Et puis ça va de évidemment une affaire comme Urgenda qui a réussi. Hein, le juge a condamné l'État. Aux Pays-Bas.
Oui, il y a quand même des recours qui aboutissent.
Voilà, exactement. À diminuer de 25% ces gaz à effet de serre, à des recours de manière très locale, comme dans la ville de Melun, où on a été contacté par une élue locale et qui nous disait depuis 4 ans, les espaces verts à Melun ont descendu de 50%. Bon. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire ?
On restera sur cette toute petite note positive quand même après tous ces constats catastrophistes. Merci à vous trois, Léa Kimber au téléphone, doctorante à l'Université de Genève, Gaëlle Musquet de l'association HEND, Chloé Gerbier de Notre Affaire à Tous. Des liens de la bibliographie en lien avec ce sujet et vos actions seront disponibles sur le site internet de l'émission qu'on pourra réécouter dans son entier sur ce même site, donc franceculture.fr. Merci à Chloé Rossignol, Catherine Donnet, Isée Sorel, Benjamin Teinturier qui m'ont aidé à préparer cette émission, à Émilie Valla qui la réalise, et à la prise de son aujourd'hui, c'était Pierrick Monsigny. Rendez-vous demain, même endroit, même heure, où il sera question du mal des mers, M-A-I-R-E-S, et de l'élection présidentielle au Guatemala. Mais tout de suite, c'est l'heure des idées claires par Nicolas Martin.